Et nous sommes toujours dans notre série de prédications qui concerne nos relations au sein de notre famille. Nous gardons à l'esprit que c'est aussi dans ce cadre, dans la famille, que nous pouvons et devons partager notre espérance. Et après avoir évoqué dans les semaines passées la relation mari-épouse, puis la semaine dernière la relation parent-enfant, eh bien nous nous arrêtons cet après-midi sur la question de la transmission de la foi au sein de la famille. Et il faut d'emblée préciser ce que nous entendons par transmettre la foi, car à proprement parler, nous ne pouvons pas transmettre la foi à nos enfants, puisque cette foi doit être leur démarche personnelle, leur décision pour le reste de leur vie. Et puisque de notre côté, eh bien, nous sommes incapables de convertir nos enfants, parce que seul Dieu en a le pouvoir. Donc peut-être que nous devrions être plus précis sur ce que nous voulons transmettre quand nous disons transmettre la foi. Peut-être devrions-nous plutôt dire transmettre les vérités qui concernent la foi en Christ. Ou bien encore transmettre l'Évangile. Ou encore transmettre les valeurs du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, à ce titre, Dioxas, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter comment tes parents t'ont transmis l'Évangile?
Oui, donc bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et donc pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, j'avais fait mention dans mon message de quelques exemples de ma vie par rapport à la relation parent-enfant. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un peu plus de détails sur comment mes parents m'ont éduqué, orienté, afin que je puisse un jour adhérer à la foi qu'ils confessent. Et le premier élément que j'aimerais souligner, c'est les cantiques. Mes parents sont des personnes qui aiment beaucoup chanter des cantiques. Et donc, depuis mon plus jeune âge, ils prenaient le temps de nous apprendre à mon grand frère et mes deux petites sœurs des comptines chrétiennes en mong. Et en fait, tout cela, ça nous donnait de la joie. Et le chant est un moyen que mes parents ont beaucoup utilisé pour nous transmettre la foi. Ils chantaient souvent le chant « Amazing Grace » ou « Dieu Tout-Puissant », donc des paroles profondes qui me touchaient. Et cela m'a encouragé et dans le fait que les parents aiment bien chanter. Ils le font notamment à la maison pour louer le Seigneur. Mais ce que j'appréciais et ce qui m'encourageait, c'est qu'ils le faisaient aussi à l'église. Et par exemple, dans des temps de témoignage, comme vous avez ici dans le temps d'Open Mic, ils saisissaient cette occasion pour pouvoir chanter et encourager l'assemblée. Et donc si un jour vous me voyez pendant le temps d'Open Mic venir sur la scène prendre le micro, vous saurez ce que je vais faire. Et donc ensuite, le deuxième élément par lequel mes parents m'ont transmis l'Évangile, c'est par la prière. Et depuis tout petit, les parents prenaient le temps de venir avec nous et nous apprendre à prier. Et le plus souvent, je le mentionne quand même, c'est plus ma mère qui venait dans la chambre avant qu'on dorme et elle nous disait de faire comme elle. Elle se mettait à genoux, elle joignait ses deux mains, elle demandait qu'on répète après elle. C'était des prières toutes simples. Voilà, merci Seigneur pour la vie, la santé que tu nous donnes. Veille sur nous qu'on puisse ne pas faire de cauchemars, faire de beaux rêves. Au nom de Jésus, amen. Voilà, en tant qu'enfant, on avait juste des fois besoin de ça. Et parfois, la nuit, il m'arrivait aussi d'avoir peur, parce que j'avais des amis mongs qui aimaient beaucoup raconter des histoires de fantômes. Les mongs, de base, il faut le savoir, sont animistes. Ils font appel aux esprits, et mes amis chrétiens me racontaient qu'ils ont déjà senti comme une présence les écraser quand ils dormaient, et que ce n'était pas un rêve. Ils étaient bien conscients de cela, et ils apercevaient parfois même une ombre. Et donc moi, ça me donnait des frissons quand ils me racontaient ça, j'étais en panique. Et parfois, quand je dormais, je me disais, ah, est-ce qu'aujourd'hui, je vais aussi me faire écraser par cet esprit? Et ma mère me rassurait, elle me disait, mais tu sais, mon fils, Jésus est plus fort que ces esprits. Et ça me redonnait en fait le moral, ça me donnait en fait de l'assurance. Et je me rappelais que Jésus, oui, effectivement, a aussi chassé des esprits et des démons. Et le troisième élément que j'aimerais juste souligner de mes parents, par lequel ils m'ont transmis aussi la foi, en tout cas m'ont conduit à croire en Dieu, c'est en consacrant un temps de culte en famille. Et le culte n'était pas quelque chose qui était programmé tel ou tel jour, mais les parents prenaient le soin de nous réunir assez souvent le soir avant de dormir pour que nous ayons justement ce temps de culte ensemble. Et bien souvent, comme je l'ai souligné en premier, les parents nous faisaient commencer par chanter des cantiques. Ensuite, on choisissait un passage dans la Bible, on le lisait et les parents voilà, l'interprétaient pour nous. Et on finissait par la prière. Et au moment de la prière, ma mère, voilà, elle aimait bien qu'on se tienne la main. Et parfois, le fait de se tenir la main, je ne sais pas si c'est des fois une bonne idée, parce qu'en fait, avec mon grand frère, on s'amusait à serrer les mains fortes de nos petites sœurs. Et du coup, pendant la prière, les sœurs criaient, et du coup, ça cassait en fait l'ambiance de la prière. Mais voilà. Mais ce qui est excellent avec le culte en famille, et que je retiens, c'est que c'était un réel moment de partage sans distraction. Et on retrouve les moyens essentiels pour nous faire découvrir la foi. Un temps pour la lecture de la parole de Dieu, même si parfois il m'arrivait de ne pas comprendre tout simplement, mais il y avait au moins une parole qui pouvait me rester. Il y avait aussi un temps pour louer Dieu, comme je l'ai dit par les cantiques, et également un temps de prière. Donc voilà. Et toi Philippe, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi.
Alors en quelques mots, en ce qui me concerne, c'est ma mère, seule chrétienne dans le foyer, qui m'a appris à prier, qui m'a encouragé à lire la Bible en français, même si elle ne la lisait pas en français, mais dans sa langue, et cela dès mon enfance. Et j'ai été marqué surtout par sa vie de prière. Je la voyais se retirer pour prier, et je savais qu'elle priait pour nous à ce moment-là. Et je la voyais régulièrement faire cela. Et en même temps, elle suivait de près aussi tout ce que j'apprenais à l'école du dimanche. Et à l'époque, peut-être que certains ont connu ça, il fallait apprendre des versets en mandarin. Donc, on avait forcément besoin des parents. Et j'ai dû apprendre, par exemple, la prière du Notre Père en mandarin. Il me reste quelques bribes de cette prière. Mais ça m'a marqué, parce qu'il fallait apprendre ça dans une autre langue. Ce sont en tout cas les souvenirs que je garde du rôle qu'a joué ma mère, seule chrétienne dans notre foyer, dans notre éducation, celle de ma sœur et la mienne. Et si nous vous partageons tous ces témoignages, ce n'est pas pour vous dire qu'il n'y a qu'une seule manière de transmettre la foi. Par contre, si nos familles n'avaient pas été ce lieu de transmission, sans doute que nos chemins, à Yuxas et à moi, auraient été différents. Et cela même si nous avons beaucoup reçu à l'école du dimanche. Nos parents n'ont fait que suivre ce que Dieu leur a demandé. Et avant de nous pencher sur les différents textes bibliques à ce sujet, eh bien, je voudrais rappeler un épisode tragique. Un épisode tragique dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous lisons dans le texte, dans le livre des Juges, au chapitre 2, versets 8 à 13. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva, qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés. En lisant juste cette partie de l'histoire, il semble qu'il y a eu une faille dans la transmission. Voilà une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'Éternel, contrairement à ses prédécesseurs, et qui s'est mise à adorer des idoles. Et assurément, nous ne voulons pas que cela arrive à nos enfants, ni aux générations suivantes. Au contraire, nous voulons leur faire connaître le Seigneur. Et regardons à présent, dans la parole de Dieu, ce qu'il attend des parents.
Et avant d'ouvrir notre Bible, j'aimerais vous demander si vous savez justement quel est le premier livre de la Bible qui parle de la transmission de la foi aux enfants. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Eh bien, je vous invite tout simplement. Donc, le premier livre donc à mentionner la transmission aux enfants donc se trouve dans le Deutéronome au chapitre 4. Donc, je vous invite à prendre votre Bible si vous l'avez. C'est vrai qu'on a l'habitude aussi de suivre sur le slide, mais ce texte-là ne se trouve pas sur le slide. Donc, le chapitre 4, et je vous invite à lire les 9 premiers versets. Donc voici. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les, afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en rentrerez rien. Vous obéirez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous transmets. Vous avez vu de vos yeux ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à cause du Dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux qui d'entre vous qui s'étaient adonnés au culte de cette divinité. Mais vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Vous le savez, je vous ai enseigné le commandement et les lois comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sages et intelligents aux yeux du peuple. Ils en entendront parler et ils s'écrieront : il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous, toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui ? Seulement, veille attentivement sur toi-même et garde bien d'oublier les événements dont tu as été témoin. Qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie et informe-en tes fils et tes petits-fils. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et je rappelle brièvement le contexte. Et Moïse, dans ce livre, renouvelle l'alliance avec la deuxième génération d'Israélites depuis l'Exode. Et Moïse et le peuple israélite se trouvent dans les plaines de Moab, après le séjour des 40 années dans le désert. Et je rappelle que la première génération qui a vécu l'expérience du mont Sinaï et la conclusion de l'alliance a péri dans le désert. Oui, les Israélites, par leur manque de confiance envers l'Éternel, sont morts parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu était capable de leur donner la victoire sur leur ennemi, qu'il allait leur donner le pays promis. Et seulement, si vous vous rappelez, deux personnes, Caleb et Josué, de la première génération, vont entrer en terre promise parce qu'ils n'ont pas douté de Dieu, de sa parole. Et dans ce livre, Moïse prêche avec force. Il appelle le peuple à l'obéissance de tout cœur au commandement de l'Éternel. Et il met l'accent sur les motivations qui doivent accompagner cette obéissance. La reconnaissance pour les bienfaits accordés par l'Éternel à son peuple et à l'amour envers l'Éternel. Et justement, dans ce passage, l'Éternel rappelle à son peuple comment il a agi à leur égard lorsque certaines personnes du peuple se sont détournées et ont adoré un autre Dieu. Et donc l'Éternel a déversé sa colère sur eux et les a exterminés. Par contre, ceux qui se sont montrés fidèles à l'Éternel et obéissants, ils ont survécu. Et cet épisode du culte rendu au Dieu de Baal de Péor, vous le trouverez dans le livre des Nombres au chapitre 25. Et nous voyons que dans ce passage, que la transmission de la foi aux enfants commence par informer les enfants de ce que Dieu a donné, ses commandements, ses lois, et également par les événements passés. Nous verrons plus tard ce point. Et ce dont les Israélites ont été témoins, ils doivent en informer leurs fils et petits-fils. Il y a cette exhortation à se souvenir de l'histoire et de l'enseigner. Parce que la foi des Israélites, elle ne se repose pas juste sur une simple connaissance de Dieu, mais ils ont vu agir concrètement Dieu dans l'histoire. Et c'est pourquoi, en fait, ils peuvent en parler aux enfants. Oui, aujourd'hui, nous également, nous qui voulons transmettre les commandements de Dieu, ces lois, c'est parce qu'elles sont justes et elles sont bonnes. De plus, on peut remarquer que lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu, il est bienveillant à notre égard. Y a-t-il des moments dans la vie où vous avez rencontré des difficultés et parce que vous avez obéi justement aux commandements de Dieu, Dieu vous a délivré de ces situations difficiles? Et souvenez-vous de ce que justement Dieu a fait pour vous dans votre vie. Et c'est ça que vous devez justement transmettre à vos enfants. Et ensuite, voyons un autre texte sur la transmission des vérités bibliques aux enfants, donc toujours dans le livre du Deutéronome, donc au chapitre 6, et je lis les 7 premiers versets. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et que tu respectes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à ses ordonnances et à ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Comme dans le chapitre 4, il est mention des commandements des lois de Dieu. Mais ici, nous avons des précisions, notamment le verset 5. Ce commandement de l'amour de Dieu, si central que Jésus a qualifié étant le premier et le plus grand commandement, qui est inséparable du commandement de l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force pour vous? Qu'est-ce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? Toute notre vie, c'est-à-dire nos pensées, nos actions, doivent être en accord avec sa parole. Nous devons obéir à Dieu, à ses commandements, à ses lois. Et justement, la transmission de ses commandements, ses lois à nos enfants, démontre que nous aimons Dieu. Je relis le verset 6 et 7. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Chers parents, si nous disons aimer Dieu, nous devons transmettre les commandements et les lois de Dieu à nos enfants. Notre rôle premier commence bien par là. C'est d'abord ce que nous demande Dieu bien avant que nous servions dans l'Église. Toutes les occasions sont bonnes pour parler de la foi à nos enfants. Regardez les détails que donne le verset 7. Chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Oui, en toute occasion, transmettons-leur ce en quoi nous croyons. Il ne s'agit pas, bien sûr, de leur imposer notre croyance, parce que n'oublions pas ce que l'apôtre Paul nous dit, comme nous l'avons vu la semaine dernière en Éphésiens 6, de ne pas exaspérer nos enfants. Et lisons les versets 20 à 25. Lorsque plus tard vos fils vous demanderont de quel droit l'Éternel vous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets, vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ses lois et de le révérer ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements en présence de l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Et oui, comme je l'ai dit, n'imposons pas par notre zèle pour le Seigneur notre foi aux enfants. Mais témoignons de ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Montrons par notre vie, par nos paroles, par nos actes, que nous obéissons bien par là à Dieu. Il nous arrive parfois d'être tellement zélés de vouloir convertir nos enfants, mais rappelons-nous que que c'est Dieu qui les convertit et que notre témoignage compte énormément pour eux. Et enfin, voyons un troisième texte dans le psaume 78. Et je vais lire les 8 premiers versets. Méditation d'Azaph. Mon peuple, écoute mon enseignement. Sois attentif à ce que je vais dire. Je dirai des leçons en parabole. J'évoquerai les secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, nous le redirons à tous ceux qui nous suivent, les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et dans ce psaume, nous voyons que le psalmiste, comment il fait pour transmettre la foi à ses enfants ? Il leur raconte tout simplement ce qui s'est passé du temps passé. Ce qui se passait dans... Si vous lisez plus loin, vous allez voir qu'il raconte tous les événements par rapport lorsque Dieu a sorti, a délivré le peuple israélite de l'Égypte. Et ici, il est très important également pour nous, lorsque nous voulons transmettre la foi, comme je l'ai dit, à nos enfants, de passer par les événements passés. Dans votre vie, le Seigneur a fait pour vous. Par quelle situation, par quelle difficulté êtes-vous passé et dont aujourd'hui vous pouvez témoigner que c'est Dieu qui vous a sorti de cela. Et ce psaume nous montre qu'il est très important pour nous de nous souvenir de ce que Dieu a déjà opéré. Et lorsque vous lisez ce psaume, il y a à peu près peut-être qui sépare les textes qu'on a lus de Moïse, il y a à peu près 200 ans qui se sont passés, mais on voit que la parole a été bien transmise de génération en génération. Même le psalmiste peut témoigner de ce que le Seigneur a fait pour le peuple en Égypte. Et c'est aussi une exhortation pour nous aujourd'hui de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre vie.
Et après le Deutéronome, le livre des psaumes, eh bien, nous voyons aussi dans le livre des Proverbes l'importance de l'éducation qui vient des parents. Et cela apparaît dès le premier chapitre. Proverbes chapitre 1, verset 8. « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. » Le livre des Proverbes se présente, comme vous le savez peut-être, comme un recueil composé de plusieurs collections de proverbes, de maximes. Et d'après les spécialistes, eh bien, ce livre était comme une sorte de manuel qui participait probablement à la formation des jeunes gens de la classe dirigeante. On utilisait ce livre pour instruire les jeunes gens de la classe dirigeante. Et les premiers chapitres prennent d'ailleurs la forme du discours d'un père à son fils. Nous avons souvent l'interpellation « mon fils » ou « mes fils » comme nous l'avons lu à l'instant. Et c'est ainsi qu'à cette époque, un maître pouvait appeler son disciple « mon fils ». Néanmoins, le prologue, le début de ce livre, nous montre que la portée du livre des Proverbes est bien plus large, que ces proverbes qui ont été composés par Salomon, qui ont été composés par d'autres sages, eh bien, ont pour but, Proverbe 1, verset 2, chapitre 1, verset 2, ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être juste, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il enrichira son savoir. Et l'homme avisé acquerra l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Voilà tout le programme du livre des Proverbes présenté ici. Et bien sûr, le verset suivant, que nous connaissons aussi, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Il est donc question de sagesse, d'éducation, de connaissance, de bon sens. Et tout cela est nécessaire pour que tout homme et toute femme sache se diriger dans la vie, en suivant les voies de Dieu, en s'écartant du mal, et précisément par crainte respectueuse de Dieu. Et parmi les enseignements que nous souhaitons transmettre à nos enfants, il y a par exemple celui-ci, Proverbe 3, versets 5 à 7. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » C'est un enseignement qu'on veut transmettre à nos enfants. Nous encourageons nos enfants dès leur plus jeune âge, non seulement à avoir conscience de Dieu, mais aussi à développer leur confiance en Dieu. Parce qu'ils savent alors que c'est lui, que c'est Dieu qui nous conduit dans la vie. Que nous dépendons de lui, de sa direction, parce que nous ne sommes pas assez sages nous-mêmes. Et cet enseignement qui doit d'abord nous concerner, parce que lorsque nous lisons ces versets, c'est d'abord à nous que cela s'adresse. Eh bien, cet enseignement fait également partie de ce que nos enfants et nos jeunes doivent recevoir de leurs parents. Et c'est assurément cette sagesse qui se trouve dans les proverbes que Dieu veut pour nos enfants. Et c'est aux parents, en premier lieu, de transmettre cet art de vivre, pour reprendre l'expression d'un commentateur. La sagesse, un art de vivre. Et ainsi, les commandements de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, avec ses nombreux échecs, les écrits de sagesse, et nous pouvons ajouter aussi les écrits des prophètes, tout cela nous font comprendre, à nous et à nos enfants, que nous ne sommes pas à la hauteur. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous avons le sentiment que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande de faire et que notre seul salaire mérité, c'est la mort. Mais Dieu, qui est riche en bonté, veut que nous racontions à nos enfants ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, eh bien, il est aussi question de cette transmission. Beaucoup moins d'instructions à ce sujet, mais quand même, et d'ailleurs, la semaine dernière, vous aviez déjà vu ce texte d'Éphésiens 6, verset 4, que je relis encore une fois. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, ce thème de la transmission apparaît aussi dans le Nouveau Testament, mais il y a beaucoup moins d'instructions que dans l'Ancien Testament. Instruire les enfants selon le Seigneur. Leur communiquer la volonté de Dieu à partir de sa parole. Telle est la responsabilité des parents, déjà évoquée dans l'Ancien Testament. Et puisque Paul s'adresse à des parents chrétiens ici, l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants s'inscrit dans le cadre bien plus large de faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. L'éducation que les parents apportent à leurs enfants s'inscrit dans le cadre plus large de faire de toutes les nations des disciples. Autrement dit, dans cet ordre de mission que Jésus a donné à ses disciples, nous pouvons sans hésiter y inclure nos efforts pour faire de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. Nous pouvons inclure dans cet ordre de mission, nos efforts de faire de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. Et je pense aussi à un autre texte qui rappelle que le salut n'est pas qu'une affaire individuelle. Dieu veut aussi sauver des familles, et cela inclut les enfants. Actes chapitre 2, versets 38 à 39, au moment de la Pentecôte, Pierre s'adresse à la foule, il répond à cette question que posent les gens de la foule, qui leur demandent qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour pouvoir espérer être sauvé. Eh bien, Pierre leur répond, changez. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et écoutez bien le verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Cette promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse du salut, la promesse que Dieu pardonne les péchés, la promesse du don de son Esprit concerne aussi nos enfants lorsqu'ils prennent la décision de changer de vie. Lorsqu'ils prennent la décision de changer de vie en renonçant à leurs péchés pour mettre toute leur confiance en Jésus-Christ. Et il faut donc que nos enfants entendent l'Évangile, autant à la maison qu'à l'Église. Ce que nous transmettons à nos chers enfants, c'est la bonne nouvelle. Que Jésus, Dieu le Fils, est venu parmi les hommes pour régler le problème que nous avons provoqué par notre propre péché. Nos enfants doivent comprendre qu'il ne suffit pas d'obéir à leurs parents pour être sauvés, car ils sont pécheurs comme nous. Et ils ont besoin d'un sauveur. Qu'ils sachent que Jésus a vécu une vie parfaite, qu'il a été obéissant en tout point à ce que Dieu demandait. Et parce qu'il avait cette vie parfaite, eh bien, il pouvait mourir à notre place sur la croix. À notre place. Parce que c'est à la croix qu'il a reçu notre châtiment, afin que Dieu puisse nous accorder son pardon. Et ça, nos enfants ont besoin de l'entendre. Que lorsqu'ils font des bêtises, c'est à la croix qu'ils doivent venir. Parce que c'est là que Jésus a payé pour eux. Il nous faut dire aussi à nos enfants que Jésus, après avoir souffert jusqu'à la mort, est bien ressuscité. Et que Dieu a approuvé son sacrifice pour nous. Et alors que nous arrivons presque à la fin du Nouveau Testament, eh bien nous lisons ce que l'apôtre Paul écrit à son cher Timothée, son fils spirituel. Et il rend témoignage de l'éducation que ce dernier a reçue. Une éducation fondée sur les Écritures. De Timothée 3, versets 14 à 17. « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Et que depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » L'Écriture, mes amis, l'Écriture est la parole de Dieu. Celle que Dieu a inspirée pour nous instruire, pour nous corriger aussi, et combien nous avons besoin d'être corrigés, et pour nous montrer comment vivre selon sa justice, selon ce qui est juste à ses yeux, et non pas selon notre propre idée de la justice. La Bible est ce qui fait autorité lorsque l'Église se rassemble comme cet après-midi. Mais elle doit également faire autorité dans nos maisons. Et tout ce que nous voulons transmettre concernant le Seigneur et sa volonté se trouve dans les Écritures. Et nos enfants doivent le savoir. Nous voulons à présent vous donner quelques pistes d'application. Et puisque la Bible comporte tout ce qu'il nous faut pour connaître Dieu et pour être sauvés, c'est avec la Bible que nous enseignons nos enfants et nos jeunes. À notre époque, nous disposons d'un certain nombre de ressources adaptées pour nos enfants. Et je pense que Yoxas va nous en parler un petit peu.
Oui, donc comme vous pouvez voir, juste si tu peux mettre la prochaine slide. Donc vous avez cette application, la Bible App pour les enfants. Et donc c'est une très bonne application qui retrace tout simplement l'histoire de la Bible. Et en tout cas, moi, on l'utilise personnellement pour Mélodie. Et c'est vrai que c'est très ludique et c'est en même temps, voilà, comme on dit, c'est des histoires toutes courtes et ça résume bien le message de l'Évangile. Et donc, je vous invite que vous ayez un iPhone ou un Android à pouvoir télécharger cette application. Elle est gratuite et voilà, vous pouvez même vous, hein, ça vous fait de temps en temps, même moi, ça me fait des petits résumés de ce que la Bible enseigne, le message central. Et donc, elle est très intéressante. Et donc, en tout cas, pour les enfants, c'est, on recommande vraiment cette application-là.
On n'a aucune action sur cette application, donc vous pouvez la
télécharger. Pas de pub.
Sans problème.
Une chose aussi intéressante qui est là peut-être plus pour le culte en famille, et là qui concerne peut-être plus les enfants adolescents, c'est vrai que le fait de pouvoir poser de bonnes questions, en tout cas pour nous, je pense que c'est important. Et lorsque, par exemple, pendant le temps de culte de famille, avec vos ados, lorsque vous méditez la parole, il y a peut-être voilà, 5 questions qu'on a exposées ici qui sont des questions toutes simples mais qui peuvent vraiment vous aider. Et donc la première c'est, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Voilà, avec vos enfants, posez-leur cette question. Qu'est-ce que dans ce passage que nous venons juste de lire, Dieu veut m'enseigner? Ensuite la deuxième c'est, quelle vérité je dois croire et comprendre? Réfléchissez à vos enfants. Réfléchissez avec vos enfants, voilà. Quelles sont les vérités auxquelles ce texte m'appelle à croire? Et ensuite, la troisième question, quelle fausse croyance, attitude ou valeur Dieu désire-t-il me voir renoncer? Peut-être que vous adoptez une certaine attitude et en lisant ce texte, le Saint-Esprit aussi va illuminer votre intelligence et là vous dire, ah, peut-être que ce que je fais là actuellement n'est peut-être pas vraiment juste. Et donc là, vous pouvez également plus vous conformer à la parole. Ensuite, la quatrième question, y a-t-il un exemple à suivre, une promesse à garder? Dans le texte que vous êtes en train de lire, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou une promesse à garder? Et enfin, la cinquième question que vous pouvez poser à vos enfants, c'est comment je vais appliquer ceci à ma vie afin de grandir davantage à la ressemblance de Jésus-Christ? Et en fait, ces questions-là, vous pouvez aussi les retrouver dans la Bible du semeur. Et c'est comment, en fait, ils conseillent de lire la Bible. Et c'est pour ça qu'ils ont donné aussi ces questions ici, pour votre culte personnel. Et moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir aussi les intégrer pour le culte de famille, pour nourrir tout simplement notre réflexion. Donc voilà.
Et j'aimerais encore insister sur cet aspect-là, de transmettre l'Évangile. Pour les parents qui ont de jeunes enfants ou même des enfants plus grands, assurez-vous qu'ils savent ce que signifie l'Évangile. Est-ce que votre enfant est capable de vous expliquer avec ses mots ce qu'est l'Évangile? Est-ce que votre enfant se sait pécheur et sait qu'il a besoin d'un sauveur qui lui fasse grâce? Est-ce qu'il sait qu'il a besoin d'un nouveau cœur et pas seulement d'essayer d'être plus sage, mais qu'il a besoin d'être transformé par Dieu? Est-ce qu'il sait cela? Est-ce que votre enfant a compris ce que Jésus a fait pour nous qui sommes pécheurs par sa mort et sa résurrection? Est-ce que vous avez pu aborder avec votre enfant le sujet de l'enfer? Est-ce que votre enfant sait ce qu'est l'enfer? Est-ce qu'il connaît les conséquences lorsque nous rejetons l'Évangile? mais aussi est-ce qu'il connaît les conséquences lorsque nous acceptons l'Évangile? Si vous constatez que ce n'est pas le cas, continuez à lui transmettre la bonne nouvelle. Continuez à lui transmettre l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Nos enfants ont besoin d'entendre l'Évangile. Et vous savez comme moi que sans une bonne compréhension de ce qu'est l'Évangile, votre enfant ne pourra pas prendre la décision la plus importante de sa vie. Et pour les parents qui ont des adolescents, il est possible d'étudier la Bible avec eux. Et Yoxas a fait part de ces questions qu'on pouvait utiliser. Et pourquoi pas lire ensemble le livre des Proverbes avec ces adolescents? Après tout, c'est un livre qui est destiné aux jeunes, entre autres. Vous pouvez lire un chapitre avec eux et évoquer ensemble comment le Seigneur vous parle. Et il n'y a pas besoin d'être très scolaire. C'est une conversation que vous avez avec vos enfants à propos de la parole de Dieu. Et en étudiant le livre des Proverbes, eh bien voici les sujets que vous allez aborder avec eux. Et la liste n'est pas exhaustive. Tout ce qui concerne les relations humaines, la paresse, le fait d'être actif, l'orgueil et l'humilité, l'honnêteté et la malhonnêteté, l'attitude dans les querelles, la colère et le sang-froid, le contentement, le fait d'avoir confiance en Dieu, le fait de comprendre la souveraineté de Dieu. Et la liste n'est pas exhaustive, il y a tant d'autres sujets dans ce livre qu'on peut aborder avec nos adolescents. Autant de sujets qui préparent déjà au futur choix de vie qui se présente à eux. Ils ont besoin de sagesse, mais une sagesse qui vient de Dieu. Et ce que nous voulons enseigner à nos jeunes, c'est qu'ils prennent les bonnes décisions parce qu'ils veulent honorer le Seigneur, parce qu'ils veulent lui plaire, tout en lui faisant confiance quant à leur avenir. Une autre piste, vous pouvez lire également avec votre adolescent le livre de l'Ecclésiaste. Là aussi, vous trouverez matière à discuter et à méditer. Il y a tellement de sujets abordés dans l'Ecclésiaste et qui concernent la vie réelle. Et par-dessus tout, parce qu'il ne faudrait pas juste se contenter de leur inculquer de cette sagesse-là, par-dessus tout, transmettez à vos adolescents la vérité contenue dans ce verset. Colossiens 2, verset 3. En lui, c'est-à-dire en Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ça que nos adolescents ont besoin de savoir à propos de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ est le Seigneur et le Maître qu'il leur faut et qu'il nous faut. C'est lui qui détient la sagesse et la connaissance. Et nos enfants doivent savoir dépendre de lui, non pas de nous, de lui, pour vivre la vie telle que Dieu le commande. Ils doivent savoir que c'est en Christ qu'ils trouveront la sagesse et la connaissance. Yoxas, un mot de conclusion?
Et donc pour finir, c'est vrai que moi personnellement, quand j'ai travaillé ce sujet, ça m'a vraiment beaucoup mis en réflexion, parce que je me suis dit, bon, avec mon épouse, voilà, on veut des enfants, j'aimerais en tout cas avoir plusieurs enfants. Et c'est vrai qu'avec la méditation de cette part, je me dis en fait que j'ai une grande responsabilité. Et que le Seigneur en attend beaucoup, juste pas pour faire des enfants, pour avoir des enfants, mais qu'en même temps, leur transmettre entre la foi. Et c'est aussi une preuve que j'aime le Seigneur, bah, transmet à tes enfants la foi. Et en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir, mûrir. Et en même temps, j'aimerais aussi vous encourager, pour vous qui êtes parents, peut-être que parfois, vous voulez que vos enfants se convertissent. Vous leur transmettez, vous faites tous vos efforts pour qu'ils se convertissent, mais malgré ça, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de changement en eux. Mais comptez sur Jésus-Christ. C'est lui seul qui convertit les cœurs. On a notre part, c'est vrai, comme on l'a dit, notre responsabilité de les éduquer dans la bonne voie, mais en même temps, nous savons que c'est par grâce qu'ils sont sauvés. Et lorsque vous êtes peut-être désemparés, prier le Seigneur, prier Jésus pour que lui puisse les atteindre là où ils sont, qu'ils comprennent vraiment ce que c'est que l'Évangile et qu'ils puissent trouver tout simplement là, connaître la personne de Christ.
Moi aussi, je donne juste un petit mot de conclusion. Dans le cadre de cette prédication, c'est sûr que nous n'avons pas abordé tout ce qui fait obstacle à une bonne transmission de l'Évangile, parce que les obstacles sont nombreux. Par exemple, notre négligence en tant que parents, ou notre contre-témoignage lorsque nous ne faisons pas nous-mêmes ce que nous enseignons aux enfants. C'est un obstacle à la bonne transmission de l'Évangile. Également, nous n'avons pas parlé du fait que chaque enfant est unique, avec un caractère bien à lui, et qu'une même éducation ne produit pas forcément les mêmes effets sur chaque enfant. Pensez à l'histoire du fils prodigue. Il y avait deux fils, l'un a plutôt mal tourné, même s'il est revenu chez son père, et l'autre semblait plutôt correct. Eh bien, une même éducation ne produit pas forcément le même effet chez tous les enfants. Autre obstacle que je souligne également, mais très rapidement, c'est l'influence du discours ambiant que nous entendons autour de nous. Ce discours qui est en contradiction avec l'enseignement de la parole de Dieu. Eh bien, ça aussi, ça fait obstacle à la bonne transmission de l'Évangile. Et je pourrais, à ce titre-là, vous envoyer un article instructif sur ce sujet. Je vais encore une fois m'adresser aux parents qui sont dans cette salle. Des parents qui se savent imparfaits. De toute façon, tout parent est imparfait. Il n'est pas trop tard. Si vous ne l'avez pas fait ou pas suffisamment pour vous impliquer dans la transmission de l'Évangile. Dieu connaît nos limites et parce que Jésus est mort pour nos péchés, il pardonne nos manquements dans ce domaine. Et j'aimerais que vous puissiez l'entendre, encore une fois, parce que c'est ça le message de la grâce. Nous avons beau avoir eu peut-être des manquements dans l'éducation, Dieu pardonne nos péchés et nos ratés. Si nous reconnaissons effectivement devant lui que nous avons raté bien des choses. Mais Dieu pardonne. Et c'est ce Dieu de grâce que vous servez en tant que parents. Et j'aimerais inclure, parce que je sais qu'il y a aussi un certain nombre qui ne sont pas parents, mais qui sont peut-être oncles, tantes, grands-parents. Eh bien, vous êtes aussi impliqués dans l'éducation, peut-être moins, pas aussi proche que pour les parents, mais vous êtes tout aussi impliqués. Dans le parcours de ces enfants qui sont dans votre famille. Eh bien, c'est ce Dieu de grâce que vous servez. Et c'est ce Dieu de grâce que nous prions pour qu'il attire à lui nos enfants, nos adolescents et même ceux qui sont déjà adultes. Car du début à la fin, nous dépendons entièrement de lui pour les élever comme il nous le demande. Amen.